C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Bonjour et bienvenue pour cette émission enregistrée aujourd'hui au cinéma Majestic à Douai et j'ai le plaisir de recevoir une délégation de la Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture, la FNCC, représentée entre autres par son président que nous avons déjà pu avoir à nos micros l'année dernière à l'occasion du FIGRA. Frédéric Ocard, bonjour.
Bonjour.
Et voilà, vous êtes toujours élu à Paris.
Ah, toujours, depuis l'année dernière, ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Élu dans quel arrondissement ?
Dans le 20e.
Et vous siégez également au Conseil de Paris.
Tout à fait.
Et vous êtes en charge de la diversité culturelle et de la vie nocturne.
Exactement, et du tourisme aussi.
Et du tourisme, rien que ça.
Voilà.
Et puis à Paris, y a pas, c'est pas comme s'il y avait des grands événements à venir l'année prochaine.
Tout à fait.
Voilà, mais il se passe toujours quelque chose dans la ville.
Pas qu'à Paris, ici aussi, regardez.
Ah, oui, mais justement... un autre Frédéric peut l'attester, c'est le maire de Douai, Frédéric Chéreau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu ici pour participer à cette émission dans le cadre du Festival international du grand reportage d'actualité, une vie culturelle qui se densifie à Douai.
Mais on en est très heureux. Voilà, le FIGRA aujourd'hui, fin août, on a le plein air festival, plein d'autres événements encore dans toutes nos structures culturelles. La vie culturelle est dense à Douai, effectivement.
Avec nous également Florian Salazar-Martin, vous êtes élu à Martigues. Voilà.
Bonjour.
Oui. Et comme il fait mauvais dans le sud, vous êtes venu à Douai.
Pas du tout.
Non, il ne fait pas beau là actuellement aujourd'hui.
Je ne dirais pas ça, je dirais que... Ben,
vous avez de la chance d'avoir de la pluie, c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui.
Oui, non, mais je pense qu'il fait très beau dans le nord.
Voilà, oui.
Alors, ce qui est le plus beau finalement, c'est l'accueil des gens.
Merci beaucoup.
Tous les gens disent bonjour, même le matin, 6h.
Une autre régionale de l'étape, c'est Oriane Aït-Lasry. Bonjour Oriane.
Bonjour Hervé.
Élue douaisienne en charge de la culture. Avec nous également Isabelle Barthès. Bonjour.
Barthes, merci.
Barthes, oh excusez-moi. Bonjour. Isabelle Barthes, adjointe à la culture dans le sud des Hauts-de-France.
Dans le sud des Hauts-de-France, oui, voilà. Sur le plateau Picard.
Voilà, le plateau Picard, c'est une communauté de communes.
Tout à fait, 52 communes,
dominante,
très petite taille.
Dominante rurale.
Tout à fait.
Ouais, on peut avoir une compétence culture.
Mais on veut une compétence culture et on tient à la garder. C'est très important sur nos territoires ruraux où justement la seule façon d'avoir des accès à la culture, c'est d'avoir un catalogue qui permet d'y aller.
Avec nous et à vos côtés, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, c'est Vincent Doucher, c'est bien ça ?
Tout à fait, Vincent Doucher, donc adjoint au maire, ville de Carouble, en charge de la culture.
Voilà, Carouble, on est dans le sud du Valenciennois.
Tout à fait, une petite commune de 3000 habitants où on fait ce qu'il faut pour avoir des événements culturels aussi, même dans les petites communes.
On parlait de compétences culture, elle n'est pas obligatoire, la compétence culture pour toutes les collectivités, monsieur le président.
Alors non, selon la loi, elle n'est pas obligatoire. Après, beaucoup de collectivités prennent cette compétence culture. Et par ailleurs, il y a une demande, il y a un besoin de culture de la part de nos concitoyens, de la part des Français. Et donc, je connais pas de collectivités territoriales qui n'agissent pas sur la culture, qu'elles aient ou pas la compétence culture. Parce qu'il y a une vraie appétence, il y a une vraie envie, il y a un vrai besoin. Et puis il y a énormément d'équipements culturels, parce que même dans il y a des territoires évidemment qui concentrent beaucoup d'équipements culturels, d'autres qui en concentrent moins. Mais si on prend par exemple, on parlait juste avant l'émission des bibliothèques, bon, bah, par exemple les bibliothèques, il y en a énormément, il y en a sur plein d'endroits du territoire, de taille, de vocation, de fonctions différentes, mais qui assurent une présence de la culture. Donc, grosso modo, toutes les collectivités territoriales agissent dans le domaine de la culture avec des moyens et des niveaux et des formes différentes, mais c'est quand même une compétence qui, même si elle n'est pas obligatoire, est ce qu'on appelle partagée.
Que de le faire sans l'officialiser, sans dire on n'a pas la compétence, mais on œuvre quand même dans le champ culturel, c'est quoi ? C'est une façon de se mettre à l'abri ou...
Non, c'est une façon de répondre aussi Tout le monde fait de la culture. Tous nos concitoyens portent en eux une part de culture. Souvent, on dit la culture, c'est un certain nombre d'esthétiques. Parfois, on a tendance à réduire la culture aux beaux-arts, par exemple, c'est-à-dire à ce qui pourrait être subventionné ou aidé. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça la perception qu'on peut avoir de la culture. C'est des pratiques culturelles, par exemple. Et les pratiques culturelles, elles se trouvent à tous les endroits, de toute forme et de toute manière. Donc c'est aussi une manière, la question de la culture, d'animer un territoire, non pas simplement sur un aspect qui peut être un aspect économique ou ça, mais c'est aussi d'animer, de créer du sens, de créer du commun entre les citoyens. L'objet de la culture aujourd'hui, de l'art, il est beaucoup ça. On le voit par exemple ici, au-delà de du FIGRA, qui a pu par ailleurs se déplacer, peut-être qu'on reviendra sur l'histoire du festival, mais à différents endroits, il crée du sens et il crée du lien entre les gens. Pas simplement le fait qu'on vient y voir des films, et de très beaux films de documentaires ou de films de reportages. Il crée aussi un lien entre les individus, il crée aussi un lien entre les habitants à l'échelle d'un territoire. La culture, elle a aussi cette fonction-là aujourd'hui.
Oriane Haït-Lasry, hier, dans votre discours, au cours de la cérémonie d'ouverture, vous rappeliez ô combien il est important que la culture ne soit pas la variable d'ajustement des difficultés budgétaires que peuvent rencontrer diverses collectivités.
Oui, la culture, là, je pense qu'on est tous convaincus qu'elle est vraiment essentielle et c'est vraiment elle qui va forger notre société, qui va nous permettre de lutter contre certaines tendances assez nocives actuelles.
Voilà, alors... Il y a des risques, des dangers. Qu'est-ce que vous vouliez dire comme ça? C'est de saluer l'action de la municipalité de Douai ou vous avez quelques craintes pour votre délégation? Il y a monsieur le maire en face. Hein.
Non, c'est pas par rapport à ma délégation, c'est par rapport à la montée du Front National et le repli sur soi, pour être très clair. Et je pense que la culture, c'est vraiment ce qui va nous permettre de lutter ensemble pour fonder une société sereine.
Frédéric Chéreau, ça représente quoi dans le budget communal à Douai?
C'est un budget très important, la culture. On estime qu'on est à 14% du budget de fonctionnement, plus tout ce qu'on peut dépenser en investissement, donc c'est plusieurs millions. Et ce à quoi on tient très fort avec Oriane, et je sais que là-dessus on partage vraiment une vision, c'est que ce soit une culture pour tous. Et on va donner la même importance à un événement qui s'appelle les fenêtres qui parlent à Dorigny, ou... à des actions où on va, par exemple, créer des fresques en graphe avec des habitants, qu'au fait de soutenir un orchestre, une scène nationale et un musée de peinture. Et justement, dans ces lieux-là aussi, la question, c'est comment on fait pour ouvrir les portes à tout le monde, avec cette logique de aller vers pour amener à, et faire comprendre que tout le monde est bienvenu dans un musée, dans une bibliothèque, dans une scène nationale, qu'il faut... casser le rapport d'intimidation de ces espaces, peut-être en y proposant des choses un peu insolites pour que les gens poussent la porte en disant bah, « Finalement, moi aussi j'ai ma place à cet endroit-là. » Et quand il se dit ça, on a gagné.
Vous évoquiez l'orchestre, on peut en parler. Compliqué pour l'orchestre actuellement, qui depuis maintenant plusieurs années tire la langue financièrement.
On en a beaucoup parlé avec sa directrice. Hier soir, j'en parlais encore avec Maddy Dorchy, la représentante de la région. C'est vrai qu'on a besoin du soutien de la région, on a besoin du soutien des agglomérations sur cet orchestre. Et ce pourquoi on milite avec Oriane Haït-Lasry, c'est que dans une ville comme la nôtre, qui a un conservatoire à rayonnement régional, très dynamique, qui brille, qui fait vivre la musique dans ce bassin minier, on a besoin à côté, en complément, d'un orchestre symphonique. C'est vraiment deux structures qui vivent ensemble et qui doivent davantage vivre en symbiose d'ailleurs.
Le financement par une collectivité, en fonction de l'importance de la collectivité, que ce soit une région, que ce soit une communauté d'agglo, que ce soit un département, que ce soit une commune, il dépend du rayonnement géographique de la structure, monsieur le Président, ou c'est autre chose?
Non, pas forcément. D'abord, il dépend de la volonté politique des élus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez des collectivités qui décident de financer la culture, de mettre une part importante du pourcentage de leur budget dans la culture, elles le font. Vous avez de grandes villes qui ont des pourcentages peu importants et des petites villes qui ont des pourcentages importants, par exemple, en termes d'action, enfin en tout cas de budget là-dessus. Donc ça ne dépend pas simplement de ça. Ça dépend encore une fois, c'est un débat de fond, de quelle place on donne sur le plan de politique publique à la culture. Il y a des collectivités territoriales, parfois, mais ça se passe aussi au niveau de l'État, hein, de temps en temps, qui oublient la place centrale et importante qu'a la culture, pas simplement dans notre société, mais dans la vie de nos concitoyens.
Quand la région Rhône-Alpes retire son financement à un théâtre public, c'est quoi ? C'est l'expression d'une volonté politique, d'un désaccord politique ?
Je pense qu'elle a tort de le faire, que les collectivités territoriales en ce moment ont des problèmes globaux qui sont des problèmes budgétaires, de bouclage de leur budget, notamment parce que, il faut le dire, depuis un certain nombre d'années, l'État nous serre la vis. L'État serre la vis aux collectivités territoriales parce que sur le plan fiscal, ça devient compliqué. Il y a aussi eu toute une augmentation des dépenses, qui étaient des dépenses non prévues, mais que les collectivités territoriales ont dû prendre en charge. Je prends un exemple, ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Si les collectivités territoriales n'avaient pas été là pour les masques, les centres de soins et tutti quanti, il y aurait quand même plein de choses que l'État, qu'on n'avait pas à faire, parce que ça relève du sanitaire. En général, c'est plutôt l'État, c'est plutôt le régalien du point de vue de l'État, mais que les collectivités territoriales ont fait. L'augmentation des coûts dans une école, des coûts de fonctionnement, pardon, la crise de l'énergie, elle touche tout le monde de ce point de vue-là. Mais ce n'est pas au nom de ça qu'il faut serrer la vis sur la question de la culture. Ce que je trouve, moi, sur la question de la région Rhône-Alpes, mais la plupart des collectivités territoriales le disent d'ailleurs, les autres, en disant, à cette occasion-là, on n'a pas simplement dit, on a des problèmes budgétaires, donc on va couper des subventions ou on va réduire des subventions à tel ou tel endroit, ce qui peut arriver dans une collectivité territoriale. Ils ont plutôt posé un débat de fond qui est, bon, on va arrêter d'aider à ce point-là la culture. Voilà. Et ça, je trouve que c'est dommageable parce que c'est pas ça le débat. Le débat, encore une fois, c'est que cette société a besoin de culture. Et donc cette société, elle a besoin d'un soutien public, d'un service public de la culture.
Est-ce que le message n'était pas également de la part de Laurent Wauquiez, président de la région, je ne veux pas nourrir la main qui me mord ?
Alors ça, c'est d'autres qui l'ont dit, sur « je ne veux pas nourrir la main qui me mord ». Et c'est un autre débat qui est né à l'occasion de ce qui s'est passé au niveau du Festival de Cannes, donc autre festival de cinéma et autre festival de films. Mais là aussi, il y a un sujet qui n'est pas simplement la question de Laurent Wauquiez, c'est que, encore une fois, si on parle de service public de la culture, si on parle du fait que, justement, pourquoi il y a des aides publiques en direction des artistes dans la culture ? À quoi elles ont été créées ? Elles ont été créées et faites depuis un certain nombre d'années, puisqu'encore une fois, quand on parle du CNC, ça date de 1946, pour justement garantir la liberté aux artistes, la liberté d'expression, la liberté de ce qu'ils racontent, la liberté de ce qu'ils créent, et qu'ils ne soient pas soit sous contrainte. À l'époque, on parlait des Américains, parce que c'est quand le CNC a été créé à ce moment-là. Et donc c'est ça le sujet. Et donc si on parle d'un service public de la culture, c'est ça qu'il faut garantir. La liberté artistique, ça fait partie des libertés fondamentales dans notre pays.
On demande également parfois aux porteurs de projets culturels, quels qu'ils soient, de trouver des compléments de financement et de savoir se tourner vers les financements privés. Est-ce qu'on peut décemment quand même dire on finance même s'il n'y a pas de financement privé ? Parce que ce qui risque de se passer à terme, c'est que également il y ait la volonté que ce soit le privé qui guide et qui finalement oriente les buts recherchés par ces structures culturelles, en tout cas leurs projets. Comprenez ce que je veux dire ?
Alors après, le privé, il arrive dans le financement de manière massive dans la culture sur la loi sur le mécénat. C'est ça qui se produit. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, le financement privé dans la culture représente plusieurs milliards.
Y compris dans des grands festivals comme le Festival de Cannes, par exemple, on en parlait.
Exactement. Après, encore une fois, on peut être pour la suppression du mécénat totalement dans le domaine de la culture. Bon, ça va faire une augmentation des budgets pour tout le monde qui va être une augmentation extrêmement importante. Parce que le mécénat de mémoire, le mécénat culturel en France, c'est 2 à 3 milliards de financement. La question ensuite derrière, c'est est-ce que... Qu'est-ce qu'attend le financement privé ? Est-ce qu'il se met dans un sens qui est un sens de service public ? Ou est-ce que derrière, parce qu'il a un financement privé, il va en attendre, il peut en attendre une visibilité, mais un contrôle sur ce qui est fabriqué ? Et là, c'est plus la même chose, du coup. C'est-à-dire qu'il est dans quelque chose où, là, qui est dommageable par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est est-ce que le financement public se retire parce qu'il y a un financement qui est un financement privé supplémentaire. Ça, c'est l'autre problème auquel on peut se trouver posé. Mais après que vous ayez, comme sur un festival ici, des financements qui sont des financements mixtes, après tout, pourquoi pas ? Je ne crois pas que parce que vous avez des festivals sur lesquels vous avez aussi des financements privés, du coup, ça dénature le sens du festival.
Quand des acteurs, qu'ils soient artisans, entreprises, commerçants, locaux, s'engagent auprès de structures culturelles à la hauteur d'une municipalité, d'une ville, à Douai, vous levez comment, monsieur le maire ? C'est bien, c'est...
Quand on est sur du mécénat, par exemple, pour le musée, on a plutôt tendance à l'encourager parce que ça nous permet par exemple de rénover une œuvre, voilà, de financer le fonctionnement du musée, et au fond c'est pas ces acteurs-là qui vont dicter les œuvres qu'on achète ou les expositions qu'on organise. Après ça, pour le reste, la politique par exemple de spectacles, d'actions culturelles dans les quartiers, etc. qu'on mène, ça on est complètement libre là-dessus et aucun acteur privé ne nous le dicte. Mais c'est vrai que, encore une fois, sur des choses qui ont un coût et qui peuvent être lourdes pour les collectivités, quand on a plusieurs dizaines de milliers d'œuvres dans un musée, avoir le privé qui vient au secours, ça peut être vertueux. C'est quelque chose qui est à encadrer, mais qui peut être intéressant dans ce cadre.
Il y a des chartes de bonne conduite qui sont édictées par la FNCC, la Fédération nationale des collectivités pour la culture. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? Est-ce qu'il y a un guide des bonnes pratiques mis à disposition des différents élus, quel que soit leur niveau d'intervention, que ce soit communal jusque national ?
Des bonnes pratiques dans quel sens ? Parce que
De ce qu'il faut
bonnes
faire,
pratiques dans la culture, on se méfie toujours. Parce que ça veut dire quoi ?
En tout cas, des pièges à éviter. Déjà, au moins, ça... Est-ce que la FNCC, c'est un lieu de réflexion, justement, pour éviter quelques pièges ?
C'est un lieu de partage, c'est un lieu de mutualisation, c'est un lieu de réflexion où, justement, on essaye de travailler, de formation aussi pour les élus, justement, non pas simplement pour éviter les pièges, mais pour aussi créer, et ce que disait Monsieur le maire, c'est des mécaniques vertueuses. Parce que dans la culture, il faut créer des mécaniques vertueuses. Pas simplement sur les financements, mais aussi sur la manière dont on travaille des projets au niveau du territoire. Ce qu'on peut faire, par exemple, sur la question... On vient de sortir il y a peu sur la question d'un guide sur la question des bibliothèques. Je prends cet exemple-là. Mmh. Eh bien, comment est-ce que sur les bibliothèques, on regarde ce qui se fait ? La bibliothèque, c'est l'outil de base d'intervention publique. Hein. Il y en a encore une fois dans tous les territoires et quasiment toutes les communes. Alors, pas à 36 000, mais énormément de communes ont une bibliothèque. Comment ça fonctionne ? Comment est-ce que dans une commune, on a trouvé une forme de fonctionnement de la bibliothèque pour ouvrir, travailler sur tel type de choses, peut-être reproductibles à d'autres endroits, ou en tout cas, on est en train de travailler là maintenant sur la question d'un guide sur le cinéma, justement sur les questions liées au cinéma, à l'éducation à l'image, aux salles municipales. Bref, la FNCC, elle sert à ça. Elle a ça comme utilité aussi, en plus de tout ce qu'on se dit là, pas tellement en édictant des chartes, mais en édictant un accompagnement, une dynamique de fonctionnement pour justement être capable de dynamiser, faire travailler la culture au niveau des territoires. C'est ça qui nous importe beaucoup. On a souvent dans les débats sur les questions de politique culturelle une vision qui est une vision parisiano-centrée. Et quand je dis ça, c'est par rapport à l'État, évidemment, par rapport à la ville que je représente, enfin, où je suis élu. Mais on a souvent une vision descendante. Or, aujourd'hui, ce qu'on montre, et ce qui est la richesse, la culture dans ce pays, c'est tout ce qui existe au niveau de ces territoires et ce qui se fabrique sur le plan collectif. C'est aussi une question. Regardez ici, par exemple, sur le Figra, le nombre de collectivités territoriales qui se sont penchées autour du berceau pour que ça existe. C'était rappelé hier soir à la séance inaugurale. Bon, ça, c'est le plus important. Mais ça se construit, ça se fabrique, ça se fait. C'est un savoir-faire. Et c'est des années, non pas de métier, mais c'est des années de compétences. Et la FNCC, on travaille beaucoup autour de ces questions-là. La coopération territoriale, par exemple.
C'est-à-dire que quand... Douaisy Agglo amène son financement quand le département est là, quand la région est là et quand l'État est là, c'est pas pour autant que la région, que la ville ne doit pas être là. Ou est-ce que c'est le moment de se dire peut-être que l'année prochaine, la ville, si d'autres arrivent, on pourra réduire la voilure et peut-être orienter nos budgets ailleurs ou sur d'autres actions.
C'est pas notre logique aujourd'hui, et la ville, elle est là de multiples titres autour du Figra, ne serait-ce que par exemple en accompagnement matériel. Nous accueillons le FIGRA dans nos structures municipales. L'hippodrome, d'ailleurs, est un bâtiment que la ville gère. On sera au conservatoire samedi pour la clôture. Donc le FIGRA...
Au théâtre demain.
Le FIGRA est en lien très fort avec la ville. Et justement, que ces collectivités soient là, ça permet de démultiplier l'action du FIGRA, d'aller chercher, par exemple, plus d'élèves dans les lycées, dans les collèges, et de faire vivre le FIGRA encore plus largement en dehors des murs du cinéma où il se passe physiquement.
Ce qui coûte cher, c'est quoi ? C'est la diffusion ? Ou c'est justement le fait de faire vivre ces lieux qui permettent cette diffusion.
Alors là, vous parlez au-delà du FIGRA.
Oui, au-delà du FIGRA de façon générale.
Il faut des lieux. À un moment donné, la culture doit avoir des lieux spécifiques où elle se déroule. On a besoin de musées, on a besoin de cinéma, on a besoin de théâtre, on a besoin de bibliothèques. Et c'est aussi parce que ces lieux existent qu'on a la possibilité de s'en projeter. qu'on est capable d'en sortir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y être enfermé. C'est la scène nationale, par exemple, de l'Hippodrome, on était hier soir, organise régulièrement des événements qui se passent dans des petites salles, dans des quartiers, etc. Et ça, c'est très bien. C'est toujours justement le aller vers pour amener. Il faut qu'il y ait un lieu repère qui puisse être un lieu où on propose des choses un peu ambitieuses, qui peuvent trouver leur place que sur une scène un peu équipée. Et ça n'empêche pas d'avoir des formes plus mobiles qu'on va proposer aux gens dans des lieux plus insolites ou à proximité de là où ils habitent.
Et ça, si je puis me permettre, pour rebondir, ça coûte cher. Je parle de l'exemple du aller vers. Il y a toutes les dimensions qui sont les dimensions connexes à la question de la culture ne sont pas suffisamment prises en compte. Je prends un exemple sur la question de l'État, la question du pass culture. Sur la question du pass culture, l'État a mis en place le pass culture avec un financement important, a mis en place aussi sur le pass culture avec un aspect de dépenses collectives sur le pass culture. Par contre, c'est bien sympa pour faire une dépense collective du pass culture quand on peut prendre le métro, mais c'est 5% des habitants de ce pays qui peuvent prendre le métro pour y aller. La plupart des autres, ils ont besoin de transport. Bon, et là, on est venu dire « Ah bah, désolé, dans le pass culture, on n'a pas prévu la question du transport. » Sauf que c'est fondamental, la question du transport. Par exemple, dans la culture, si on travaille sur la question de l'aller vers et si on la travaille sur la question de la culture pour qu'elle fabrique du commun à l'échelle d'un territoire. Et cette dimension-là n'est pas prise en compte. Il y a un sujet, moi, je trouve, aujourd'hui, qui c'est qu'il faudrait, et notamment du côté de l'État, mieux prendre en compte toutes les questions qui sont les questions d'aller vers, toutes les questions qui sont les questions connexes par rapport à ça, mais qui sont fondamentales dans le domaine de ce qui doit se travailler sur les questions de culture.
La question de la mobilité des publics, ça reste quelque chose d'important. Je vais me tourner vers vous, Isabelle Barthes. Je rappelle que vous venez donc de la Picardie, voilà, et que vous êtes en charge de la culture dans une communauté de communes, à dominante rurale.
Tout à fait, 52 communes, assez petites, la plus grande ville a à peu près 6 000 habitants. Donc effectivement, on se confronte à ce problème de mobilité qui est vraiment un vrai problème chez nous. Donc nous, on a pris le parti de nous déplacer dans les communes. Donc on a une saison culturelle qui va aller de village en village. Avec une représentation une fois par mois, grosso modo. On a deux festivals, un de jazz qui est maintenant bien assis, et un qu'on appelle de printemps, qui est un festival très familial, qui a eu lieu la semaine dernière à Saint-Morin-Villers, donc un petit village de 400 âmes. Hein. Il suffit de trouver un territoire. Nous, on se déplace, on amène les structures, on amène les compétences. Ça nous permet en même temps de valoriser le territoire. Et de faire connaître ce territoire aux autres habitants. Ouais. C'est une autre façon de voir les choses, parce qu'on a beau avoir mis des structures. J'ai une communauté de communes qui marche très bien avec des compétences intéressantes, mais c'est vrai que la mobilité reste un souci. On a mis en place un réseau pouce, on a mis en place des tas de choses, mais ça reste compliqué de se déplacer.
Lors de ces événements, de ces festivals, par exemple, on arrive à attirer le public au-delà du périmètre de la communauté de communes, qu'ils viennent d'Amiens, qu'ils viennent d'Arras, de Douai, de Lille,
ou... Alors pas forcément de Lille, de Douai, ça commence à faire loin. Amiens, oui, bien sûr. Et puis tout le périmètre autour. Après, c'est une question de communication où là, voilà, il faut aussi qu'on sache communiquer auprès des gens. Si on ne communique pas, on n'y arrivera pas. Et puis on a ce côté accessible à tous. Ça veut dire que par le choix de notre programmation, on va se prémunir, faire attention à ne pas être élitiste. La culture, de par son historique, monsieur le maire le disait tout à l'heure, c'est difficile de dire aux gens « venez ». Alors, une fois qu'ils viennent, une fois, normalement, ils reviennent. Mais il faut déjà avoir cette première fois.
Ça y est, il y a un public converti au jazz.
Le festival jazz, il est assis, ça fait 11 ans, 12 ans qu'il existe. Celui-là ne pose aucun problème parce qu'il est connu. Le festival de printemps, qui est plus jeune, commence à avoir son public. Si aussi la saison culturelle continue à bien fonctionner, si le festival de printemps fonctionne, c'est parce qu'on amène aussi une grande qualité de spectacle. Et ça, c'est quand même la clé pour garder le public. C'est de leur montrer des jolies choses et des choses qui les intéressent.
On peut être exigeant et trouver le public.
Bien sûr.
Voilà, c'est pas le nivellement par le bas.
Pas du tout. Voilà. Ça, c'est la mort de la culture.
Ouais, parce qu'il y a des élus qui nous disent, mais c'est simple, il faut faire tourner les serviettes et ça va marcher. Les gens seront heureux. C'est autre chose, la culture.
Mais bien sûr que c'est autre chose, la culture.
Frédéric, cher, vous approuvez?
Il ne faut pas nier l'aspect divertissement. Ça fait partie de la culture et c'est important que les gens puissent sortir de chez eux, puissent lever un peu la tête du guidon, puissent passer des bons moments où simplement on se fait plaisir et on se retrouve. Mais si on s'arrête là, on n'a pas tout dit. La culture, elle est là aussi pour nous permettre de faire société, faire du lien, créer du lien ensemble, être à la fois acteur et spectateur, prendre la parole, apprendre à s'émanciper en partageant des choses ensemble. Et puis, elle est là aussi, comme on le disait hier, c'était les mots d'Albert Londres, qui disait il faut mettre la plume dans la plaie. La culture, elle est aussi là pour montrer ce qui ne va pas ou ce qui pourrait être et raconter la société avec un regard un peu décalé, un œil différent. Si on s'arrête au divertissement, il est indispensable et c'est bien, mais on n'a pas tout dit.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé.
J'ai changé, d'ailleurs je n'ai pas pu lutter. La jeunesse est un CDD, toujours de trop courte durée. Mais au diable mes démons, mes complexes et mes peurs, dans ce monde à la con, vieillir est une erreur. Alors je fais bonne figure dans ma résilience secondaire, à chaque ride, chaque fissure qui n'existait pas encore hier. Oh, et puis merde, je n'ai pas dit mon dernier mot, je n'ai pas dit mon dernier merde. Alors je le gueule tout, ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Sur les lignes de mon visage, on peut bouquiner mon histoire, mes coups de foudre et mes orages, et mes défaites et mes victoires. Oui, tout est là noir sur blanc, de face et de profil, tatoué par le temps à l'encre, indélébile. Et quand je regarde mes mains, mon cou, ma taille et ma poitrine, on n'y peut rien, je le sais bien, ma jeunesse est une vieille copine. Oh. Et puis merde, on ne mourra pas comme ça, le combat qu'on est sûr de perdre est celui qu'on ne livre pas. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Mes idées noires et mes nuits blanches ont griffé ma peau de chagrin. Et je vois bien que sur mes hanches, y a pas de fête sans lendemain. Mais j'ai encore la candeur d'être bien dans ma peau, sans botoxer mon cœur ou lifter mon cerveau. Et tant pis si quand je suis nue, je regrette un peu le passé. Mon cul, tout comme mon vécu, sont parfaitement imparfaits. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je n'ai pas dit mon dernier merde, et je l'assume à nouveau. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite. Ni parfaite, ni refaite, je suis telle que la vie m'a faite.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Notre émission aujourd'hui est enregistrée au cinéma Majestic à Douai à l'occasion du FIGRA 30e édition du Festival international du grand reportage d'actualité. Et nous sommes avec la FNCC, Fédération nationale des collectivités pour la culture, représentée par son président Frédéric Ocard, président de la FNCC, élu dans le 20e arrondissement de Paris et en charge de la diversité culturelle, de la vie nocturne et du tourisme. Frédéric Chéroux, maire de Douai, est également avec nous. Oriane Haït-Lasserie, adjointe à la culture à la ville de Douai. Et Isabelle Barthes, conseillère communautaire de la communauté de communes du plateau Picard, elle aussi en charge de la culture. J'évoquais tout à l'heure l'actualité qui sera la vôtre, mais qui va être celle du monde entier à Paris 2024, les JO qui arrivent.
Puis c'est l'année prochaine.
Oui.
Je plaisante.
Oui, ça arrive. Enfin, nous déjà, on nous dit que c'est bien parce que finalement, ça va également être bénéfique pour d'autres territoires que le territoire parisien. Mais on a également entendu dire que on pouvait pas tout faire. Voilà, comme on fait les JO, on pourra pas être sur d'autres événements et que certains festivals pourraient ne pas se dérouler, en tout cas au moment prévu. Pour ne pas fatiguer les forces de l'ordre qui sont nécessaires au maintien, entre autres, hein, et puis à la bonne tenue de ces événements. Ça va se passer comment au final ?
Ben bien, j'espère. Après, c'est une bagarre en fait qu'on a menée au niveau de la FNCC, mais pas que, toutes les associations d'élus, parce que l'année dernière, le ministre de l'Intérieur a annoncé de manière un peu impromptue que pendant la période des Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui seront grosso modo 15 juillet jusqu'au 10 août, et ensuite 25 août jusqu'au 8 septembre, de par la mobilisation des forces de l'ordre au niveau de Paris et de la Seine-Saint-Denis, il ne pourrait pas y avoir de festival en France parce que les festivals ont besoin d'être sécurisés pour les forces de l'ordre. Par les forces de l'ordre. On a beaucoup réagi de manière assez vive parce que d'abord, les Jeux Olympiques, c'est une vitrine mondiale. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent, pas simplement à Paris, qui viennent en France, et la France montre ce qu'elle est. Or, si la France ne montre pas ce qu'elle est au moment des Jeux Olympiques et si elle ne montre pas les festivals et la diversité, la création au niveau de son pays, elle nie une partie de son identité. Je veux dire, on est le pays, parmi ce qu'on fait, on est le pays. Il y a 5000 festivals dans ce pays, il y a une créativité extrêmement importante. Donc, dans quasiment chacune des esthétiques d'ailleurs, on a créé le festival. Je veux dire, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la bande dessinée, bon bref. Donc on a mené une grosse bagarre sur cette question-là. On a obtenu qu'il y ait une circulaire qui rétablisse les choses et qui dise qu'il y a des possibilités de maintenir des festivals, y compris pendant la période olympique. Maintenant, après, c'est au cas par cas, parce que c'est à l'appréciation des préfets, pour savoir si ça pourra se maintenir. Donc on a encore quelques petits sujets. Sur les Hauts-de-France, il n'y en a plus. Mais il y en a encore quelques petits sujets en Rhône-Alpes. Alors pas liés à la région Rhône-Alpes, hein, liés à des préfets. Il y en a un, c'est le préfet de l'Allier, et l'autre, c'est au niveau du Rhône. Mais on va être très vigilants sur cette question-là, parce que ce n'est pas l'un à la place de l'autre. Encore une fois, si on prend par exemple au niveau des politiques publiques, c'est pas le sport à la place de la culture. En général, vous faites le sport et la culture. Ça fait des choses différentes. Mais là, on nous a un peu posé quelque chose sur le thème, c'est l'un à la place de l'autre. Or, moi je le dis en tant qu'élu parisien, on s'est pas battu pour avoir les Jeux Olympiques, pour que derrière on annule les festivals. C'était pas ça qui était prévu dedans. Et on se battra pour que ça soit pas ça qui se passe.
Petite question, vous avez des places ou quand on est élu, on arrive à avoir des places ou pas ?
Ah non, j'ai aucune place pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je vais vous dire, sur les Jeux Olympiques, c'est de pouvoir venir voir la cérémonie d'ouverture. Ouais. Parce que la cérémonie d'ouverture, elle est confiée à un artiste, Thomas Joly, pour ceux qui ont vu ses créations, qui fait de très belles créations. Et je pense qu'il fera quelque chose de très beau. Après, l'aspect sportif, je ne dis pas que ça m'intéresse un peu moins, pour tout vous dire.
Si je vous taquine un peu là-dessus, c'est juste pour en venir sur la question de tarifaire. Voilà, parce que quand on parle également de la culture, on veut la rendre accessible par des politiques tarifaires. On peut pouvoir faire... Est-ce que l'argent public, ça doit servir surtout à faire baisser le prix d'entrée et assurer quand même... Eh ben, la juste rémunération de l'ensemble des professionnels qui amènent la culture.
C'est le premier objet d'intervention de l'État quand le ministère de la Culture est créé. Quand le ministère de la Culture est créé en 1959, c'est d'abord pour faire baisser le prix du tarif d'entrée dans les spectacles. Il y a évidemment plein d'autres questions derrière depuis 70 ans que tout ça a été fait. Mais il ne faut pas l'oublier, effectivement, que c'est aussi à cet endroit-là que les choses se jouent. Mais pas simplement, parce que vous pouvez par exemple regarder sur ce qui est gratuit. Je prends l'exemple de la politique dans les musées. La gratuité dans les musées n'a pas forcément impliqué derrière le fait que brusquement, vous avez un public populaire qui s'est précipité au musée parce que ça devenait gratuit. Donc la question qui est la question de savoir si la culture est accessible pour tous, si la culture est un facteur de mélange, de vivre ensemble, bref, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est aussi lié au fait qu'il y a des politiques publiques pour l'accompagner. Ça se fait pas naturellement. On franchit pas naturellement comme ça au point de départ. Il y a une reproduction sociale, il y a une distance sociale qui est placée par rapport au théâtre, par rapport au musée, par rapport à tout un certain nombre de formes d'art qui seraient longues à expliquer sur pourquoi cette distance sociale a été créée, parce que c'est des décennies, voire des siècles qui sont venus implémenter ça. Donc derrière, c'est des politiques publiques pour travailler ces questions-là, pas juste la question du tarif. Je l'oublie pas, mais c'est pas l'unique.
Ouais, à savoir que quand la famille profite du dimanche de gratuité du musée, c'est peut-être l'occasion pour elle de pouvoir repartir avec le souvenir qui fera plaisir à quelqu'un de la famille, ou voilà, que ce soit un ouvrage ou quelque chose qui a été publié à cette occasion.
Oui, bien sûr. Mais puis après, il y a l'aspect événementiel. Il ne faut pas oublier, comme ça a été dit tout à l'heure, que la culture, ça doit rester un plaisir quand même, je veux dire, à la base. Donc, c'est pas, on est dans quelque chose où on vient prendre du plaisir. Ce n'est pas simplement quelque chose où on regarde des œuvres abstraites auxquelles on ne comprend pas forcément grand-chose et sur lesquelles, pour caricaturer, on s'emmerde. On faut aussi prendre plaisir à ça.
On essaye au maximum de faire les choses gratuites, mais on ne peut pas toujours les faire, monsieur le maire, à Douai.
On fait beaucoup de gratuits. C'est vrai que c'est important que ce soit gratuit parce que quand, par exemple, vous mettez quelque chose de payant et puis que vous dites, pour certaines personnes en difficulté, on va mettre un ticket voilà, particulier, vous devez prouver que vous êtes au RSA. Il y a une sorte de marque sociale que vous mettez sur les gens et vous les forcez à signaler leur statut qu'ils n'ont pas forcément envie de raconter. Quand c'est gratuit, on ne se pose pas la question, tout le monde vient. Et quand vous avez un grand événement, je prends les fêtes de Gaillan, par exemple. Il ne faut pas opposer la culture populaire et la culture estampillée comme élitiste. Les fêtes de Gaillan, c'est de la culture aussi, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et c'est très important qu'il y ait ces moments-là, c'est les moments où toutes les classes sociales, tous les âges vont se retrouver et on vit quelque chose ensemble.
J'ai entendu dire plus de majorettes parce que finalement, c'est ce qui coûte moins cher, les majorettes et les fanfares cette année.
Non, alors c'est absolument pas ça qui a été dit en conseil municipal.
C'est le raccourci que j'en ai entendu.
Oui, bah c'est un gros raccourci. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le spectacle de rue, on se rend compte d'une chose, c'est que le Covid a beaucoup bousculé les compagnies et on n'a plus les mêmes offres que ce qu'on pouvait avoir avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des compagnies qui étaient capables parfois de faire des grandes structures, des grands gabarits, je sais pas, un grand dragon, un grand cheval, avec autour 15 personnes. Et qui n'hésitaient pas, si vous leur disiez, bah, on a un défilé qui fait 3 km, ouais, pas de souci, on a le monde qu'il faut, on va faire ça. Aujourd'hui, ils vous disent, bah, on n'a pas eu les moyens d'investir dans un truc aussi grand, on a quelque chose d'un peu plus petit, puis on ne va pas être 15, on va être 5, on va être 6. Est-ce que 3 km, c'est pas un peu long pour... Donc, faut prendre ça en compte et se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on repense le défilé de Gaillan en fonction de ce que les artistes sont capables aujourd'hui de nous proposer, d'aller chercher ce qui existe et de dire peut-être qu'il faut un peu faire son deuil, de, pour l'instant, pour quelques années, de cette grosse structure qu'on a un peu plus de mal à trouver en ce moment. C'est ces réflexions qu'on est en train de mener. On veut continuer à faire un très beau défilé où qu'on puisse avoir toujours 50 000 personnes qui viennent à Douai et qui profitent, qui en ont plein les yeux. Mais il faut aussi s'adapter à ce que les artistes aujourd'hui sont capables de nous proposer.
La culture, ça doit être un espace de débat privilégié à l'occasion des différentes élections, que ce soit à l'occasion des élections municipales, que ce soit à l'occasion des élections départementales, régionales, nationales.
Ça l'est déjà quand même un petit peu, pas suffisamment.
C'est souvent ce qu'on évoque à la fin du débat quand il nous reste juste un peu de temps.
On le fait remarquer souvent, on l'a fait beaucoup faire remarquer, par exemple sur les élections présidentielles, en disant mais on parle plus de culture à l'occasion des élections présidentielles. Mais il y a des débats, si on n'a pas ces débats à ce moment-là, on les a forcément. Encore une fois, regardez le débat qu'on a, et qui est un débat politique, suite à ce qui s'est passé, l'intervention de Justine Trier à Cannes. Il y a un débat politique sur la place de la culture. Certains disent elle a eu tort de dire ça, faut pas qu'elle le morde la main qui la nourrit. D'autres qui disent non, c'est le service public de la culture. D'autres qui disent elle a eu raison, la question de la réforme des retraites est quand même un vrai problème aujourd'hui et qui n'est pas réglé ça. D'autres qui disent c'est le rôle des artistes, parce que à l'arrivée c'est aussi le rôle des artistes de faire politique. Pas de, ils peuvent faire de la politique aussi, c'est encore autre chose, mais de faire politique, de nous éveiller. Ce festival, le FIGRA, bon, qu'est-ce qu'il raconte les films? Le film qu'on a vu d'ouverture hier, qui racontait une période sombre de notre histoire, puisque c'était la déportation de femmes résistantes, ça raconte des choses sur le plan politique. Ce qui est important aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y ait des débats autour des politiques culturelles, et puis qu'on considère aussi que ce que racontent, ce que disent les artistes, qu'ils prennent et qu'ils ont leur part pour prendre part au débat politique et nous réveiller sur les débats qui sont les débats aussi. Moi, j'attends beaucoup ça de la culture, beaucoup de ça de la part des artistes, c'est-à-dire qu'ils participent à l'endroit dans lequel ils sont, pas forcément en tant qu'hommes politiques ou femmes politiques, mais à l'endroit dans lequel ils sont, qui participent au débat public. Et souvent, on a un peu l'impression de mettre ça de côté. On a l'impression que le débat sur la question de la culture, de toute manière, il est réglé parce qu'aujourd'hui, bah, c'est subventionné et puis bon, c'est simplement la question des niveaux de subvention. Je ne crois pas du tout ça. La preuve, les débats qu'on a en ce moment sur la place de la culture, que ce soit sur la question des Jeux Olympiques, on en a parlé, que ce soit sur ce qui se passe à Cannes ou autre.
J'invite, moi, souvent, les auditeurs à aller visionner, quand ils sont en ligne, les différents moments de délibération où parfois le loup sort du bois parce que la bête n'est pas totalement morte dans ce pays. Monsieur Chéreau, vous êtes déjà confronté à ça parfois, à des oppositions en disant non, on ne veut pas financer, que ce soit au conseil régional quand vous y siégez naguère ou alors au conseil municipal.
Pour l'instant, je n'ai pas rencontré ça de manière directe. À Douai, en tout cas, on ne rencontre pas ce genre d'opposition à ce stade. Mais je ne fais pas forcément la même confiance à tous les mouvements politiques pour avoir un regard réellement ouvert et confiant sur la culture. La majorité de Douai, nous, on part du principe que ce n'est pas à nous de dicter aux artistes ce qu'ils doivent dire et que si ça nous titille, si ça nous pique, si ça nous met dans l'inconfort, eh ben, ce n'est pas grave. Et c'est leur rôle et c'est leur job. Voilà.
Merci en tout cas de vous être arrêté ici. Vous souhaitez rajouter quelque chose, Monsieur le Président ?
Non, pas du tout. Merci beaucoup.
Voilà. Et puis, je vous souhaite un très bon festival. Vous allez venir chaque année, alors, finalement ?
Si je suis invité, bien sûr. Mais par ailleurs, blague à part, en dehors de...
c'est chouette hein, d'être président de la FNCC parce qu'on se promène de festival en festival ou...
Alors non, c'est pas simplement pour faire le touriste, mais ce qui est important aussi pour la FNCC, et c'est le plaisir que... Parce que là, on a aussi ce matin une réunion avec des élus du territoire. C'est aussi... La FNCC, c'est une fédération d'élus des territoires, des collectivités pour la culture. C'est pas juste la fédération parisienne ou ça. Donc c'est aussi important... Moi, c'est ce que je viens faire aussi, discuter, échanger, réfléchir sur les questions de politique culturelle. Parce que quand à un moment donné, vous vous retrouvez, par exemple, au niveau national, dans des débats avec la ministre de la Culture, vous êtes imprégné aussi de tout ça dans l'échange que vous pouvez avoir. Or, l'échange, il ne se passe pas simplement par une réunion, par Zoom. Il se passe aussi en allant voir les gens.
On se forme à la question de... Ce sera la dernière. À la question de la politique culturelle. Ça demande une formation de la part... des élus ont...
Alors, oui, ça demande une formation de la part des élus. Ça demande surtout une envie, parce que c'est de là que ça part. La culture, ça parle quand même du... On parle de la question du désir dans la culture, beaucoup. On parle de la question de... C'est un acte de création, quand même, l'art et la culture. Donc, nous, on fait des formations pour aider les élus dans ce domaine-là. Après, ça part aussi d'une envie, ça part aussi d'une intuition, ça part aussi de... Voilà, je sais pas, on n'est pas, faut pas forcément être artiste. Hein, je connais peu d'ailleurs d'élus qui sont eux-mêmes artistes, mais voilà, je pense que ça parle d'un désir.
Je vous souhaite un bon festival, Monsieur le Maire.
Merci à vous.
Vous aurez le temps de regarder quelques documentaires.
Je vais essayer. Oriane a beaucoup insisté pour que je fasse de la place dans mon agenda. C'est pas forcément simple. Les semaines sont bien remplies, mais j'essaierai. Voilà.
Bon, allez, sur la compétition moins de 40.
Et je suis très heureux de voir qu'on a des élus qui viennent de l'Oise, de Caroubles pour venir jusqu'ici vivre avec nous le Figra. Quelque part, de Martigues même,
et de Malakoff,
voilà, parce que on a la chance nous ici à Douai d'avoir au fond des structures culturelles magnifiques. On est un peu des riches de la culture, mais je suis toujours admiratif des élus qui font vivre la culture dans des tout petits villages, au milieu des zones rurales, avec une imagination, une créativité, voilà, qu'il faut souvent prendre en exemple. On a nous le CIRA dans le sud du Douaisis qui fait la même chose. Il y a beaucoup à apprendre dans nos villes où finalement on a énormément de structures classiques. On a beaucoup à apprendre de ce qui se fait dans le monde rural.
J'allais dire qu'on allait terminer, mais j'ai encore une question à poser. Justement, à Isabelle Barthes, vous accueillez également des artistes en résidence, parce que ça aussi, c'est important dans le milieu rural que de pouvoir faire venir l'artiste à la rencontre de ses publics, la résidence.
C'est très important et ça fait partie de mes projets les plus solides. Mais le problème se pose encore une fois sur la structure. On n'est pas forcément équipé pour recevoir. Donc il faut avoir de l'imagination. Il y a des gîtes, il y a des lieux où on peut aménager. Mais petit à petit, les choses vont se faire. Mais effectivement, avoir des résidences, ça fait partie des choses qui me font un peu rêver. Ouais.
Ben voilà, on espère pour vous que ça puisse être possible dans les meilleurs délais. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci.
Bon festival à tous et à bientôt.
Merci, Hervé.
La puce à l'oreille. C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 105.